Bonjour, cet épisode a été enregistré le 6 juin 2011. Architect est un podcast sur les sujets d'architecture en français. Les épisodes sont disponibles en audio, mais également en vidéo. L'adresse de référence est architech.archims.fr. Vous y trouverez les liens pour vous abonner au podcast ou voir les vidéos sur Channel 9. Je suis Benjamin Guinbertière, architecte en système d'information au sein de la division plateforme et écosystème de Microsoft. Voilà, donc aujourd'hui je suis avec Stéphane Goudeau.
Bonjour
Stéphane. Et nous allons parler de Rich UI. Donc tu vas nous dire ce que c'est, mais d'abord, peux-tu te présenter et nous dire comment
Bien
tu t'appelles Stéphane?
Bien sûr, donc je m'appelle Stéphane Goudeau.
D'accord.
Je suis architecte au Microsoft Technology Center de Paris.
Oui.
Et donc je suis, en tant qu'architecte, responsable de plusieurs offres au MTC.
D'accord.
Le rôle du MTC peut-être?
Oui, rapidement.
Donc le rôle du MTC, c'est d'accompagner nos clients et nos partenaires dans l'adoption des technologies et des produits Microsoft. Et donc à ce titre, je suis amené à intervenir et être responsable sur plusieurs offres d'accompagnement. Et parmi celles-ci, l'industrialisation des développements sur la plateforme Windows.
D'accord.
Et donc qui dit développement sur la plateforme Windows dit également développement d'applications clients riches.
D'accord.
Et donc on a tout un ensemble de technologies qui nous sont proposées par notre éditeur favori,
oui.
En tout cas en ce qui me concerne. Et donc parmi celles-ci, WPF, Silverlight, on voit point dans l'horizon HTML5. Et donc l'objectif, c'était de, à travers un document collaboratif, participatif,
oui.
de faire un peu le point sur les techniques, les bonnes pratiques de développement dans ce type d'environnement.
Ouais. Cette page ainsi que ce podcast sont dans le cadre d'une série sur tout un ensemble de disciplines ou thèmes d'architecture.
Oui.
Et donc ici, effectivement, c'est l'interface, le développement des interfaces riches sur lesquelles qu'on va aborder aujourd'hui.
Tout à fait.
Très bien. Et bien donc, nous allons parler de développement Windows Client avec les NUI et les RIA.
Oui, Natural User Interface.
Et
Rich Interactive Application.
Ou Internet.
Je préfère dire interactive parce que ben, les technologies dont on va parler, à savoir WPF et Silverlight, elles sont de plus en plus convergentes. Et lorsqu'on développe une application sur Windows aujourd'hui avec l'une ou l'autre de ces technologies, elle va avoir exactement les mêmes caractéristiques, enfin, peu ou prou, que celles qu'on retrouvera en s'exécutant dans le plugin Silverlight sur un browser. Donc voilà, c'est mon côté holistique. Un acronyme à trois lettres qui rassemble les deux types d'applications, RDA et RIA.
Rich Desktop Application et Rich Internet Application, que tu regroupes en tant que Rich Interactive Application.
Voilà, tout à fait.
Cool.
Donc, alors, ce document, je tiens à rappeler qu'il est encore en gestation, c'est une
D'accord.
V1. Et cette V1, elle a le mérite d'exister, et j'invite tous les contributeurs à venir s'exprimer, à réagir par rapport à ce qui a pu être écrit, parce que qui a été finalisé ce week-end parce qu'il pleuvait, donc forcément il y a matière à optimisation.
D'accord, si vous voulez le faire donc de façon disons un peu publique, il y a le forum LinkedIn qui est à forum.archims.fr, et si vous voulez le faire par email, vous pouvez envoyer un mail indirectement à Stéphane via rich-ui@archims.fr.
Donc, ce document, il commence par une table des matières, c'est
D'accord.
souvent le cas, et autre bonne pratique, une introduction.
D'accord.
Introduction qui resitue rapidement le sujet et qui enchaîne sur une vue d'ensemble,
ensemble
dans laquelle on retrouve le schéma synoptique cher à
Benjamin. Très important.
Voilà, donc alors j'espère qu'il te plaira, Benjamin.
On va voir.
Oui, le doute est encore permis. le vocabulaire, c'est important, et c'est tellement important que pour l'instant, j'ai juste la tête de section, donc
D'accord. je t'invite
à venir contribuer, enrichir, encore une fois. Les caractéristiques d'une application Windows, donc là un chapitre complètement général revient sur ces caractéristiques qu'on retrouve systématiquement sur l'application Windows. Les technologies de développement, WPF, Silverlight et à venir HTML5, donc que j'évoque plus dans le positionnement mais que je n'ai pas abordé encore aujourd'hui dans ce développement. Ça, forcément, ce sera le cas dans l'avenir.
D'accord.
Le développement d'une application pour Windows, donc.
WPF, on voit qu'il y a tout un chapitre.
Oui, WPF, c'est un framework qui est assez riche, donc je voulais resituer un certain nombre de points. Le développement WPF aujourd'hui, fortement dépendant de XAML, dans une approche
Extended de Application Markup Language.
Tout à fait, ou XML Application Markup Language, selon les.
L'humeur du jour.
Développement d'une application métier.
Ouais.
avec les mauvaises pratiques qui sont rapidement évoquées pour enchaîner sur les bonnes.
D'accord.
Donc une application métier, forcément dans l'environnement WPF ou Silverlight, ça suppose le bon usage de mécanismes de data mining.
D'accord.
Et qui dit bon usage dit bonne pratique, et donc également la mise en œuvre de design pattern avec le pattern qui remporte tous les suffrages aujourd'hui sur ce type de développement, qui est pattern MVVM.
Modèle, view model.
Effectivement, et le pattern commande également qui est dans l'intérêt, bon il y en a d'autres, mais j'étais au plus court. Un axe de réflexion complémentaire avec l'extensibilité, avec le framework MEF, comme Manage Extension Framework, qui est un framework qui nous permet d'enrichir une application en changeant dynamiquement des modules.
D'accord, pour des plugins typiquement.
Tout à fait. D'autres frameworks, comme le framework de composition dynamique, le framework Composite Application Guidance for WPF and Silverlight, Prism 2 de son nom de code.
D'accord.
Donc, qui n'est pas appliqué dans tous les cas, mais qui dans certains cas peut faire sens.
D'accord.
Lui-même s'appuie sur les mécanismes d'injection de dépendance qui peuvent être proposés par les frameworks comme Unity ou MEF. Les applications Windows, forcément, elles sont amenées à afficher, mettre à jour de la donnée. Cette donnée, il faut bien aller la chercher. Donc, un bref aperçu des différentes façons d'exposer de la donnée et de communiquer avec des services qui proposent ces données.
D'accord.
La globalisation, le multilinguisme, pour les applications donc, qui vont être à destination des pays de France et de Navarre. Mm-hmm. Les performances pour les applications multithread, par exemple, le modèle de déploiement, donc avec un focus sur QuickOnce, qui n'est pas si éloigné de ce que propose le modèle de déploiement Silverlight.
D'accord.
La sécurité, donc comment est-ce qu'on va gérer la notion de profil, d'authentification, de sécurité basée sur les claims depuis WPF. La convergence entre les deux technologies, Silverlight et WPF, et puis donc un chapitre consacré au Natural User Interface, dans lequel on évoquera Surface, évidemment, dans sa V2, le développement d'applications multi-touch Windows, et là aussi il y a une convergence avec le SDK entre Surface et le développement d'applications Windows multi-touch.
Surface, on peut rappeler que c'est une espèce de table basse.
Basse, très bien dans mon salon.
Multi-touch, voilà. Sur laquelle effectivement on peut interagir avec un PC, enfin, dessous c'est un PC en fait, mais. Voilà, donc c'est une forme de matériel qui permet le développement d'applications Windows spécifiques et multi-touch.
Et Kinect. Donc Kinect qui est arrivé d'abord par
La
Xbox, mais qui aujourd'hui est disponible également sur le PC avec un SDK qui devrait être disponible pour le public incessamment sous peu.
Pour les hobbyistes.
On a pu le récupérer hier en interne, donc je pense qu'il sera là si aujourd'hui, ce sera sans doute demain. Voilà, et puis bon, une tentative de synthèse sur le sujet.
D'accord. On précise également que tu déplaces l'écran avec une technologie qui s'appelle SDD.
Oui, alors qui c'est est, détection du mouvement de la rétine.
Ouais, ou souris dans le dos en fait.
Oui aussi, oui, c'est selon.
D'accord. Bon, entrons dans le vif du sujet.
Donc le document commence par une introduction donc qui rappelle qui contacter, comment...
oui, d'accord. On va juste te dire par rapport à cette introduction que cette page-là est accessible à http://rich-ui.archimes.fr.
Merci, Benjamin. Donc ensuite, après cette rapide introduction...
Alors, le schéma synoptique.
Voilà, donc ça c'est critique pour Benjamin, il faut un schéma synoptique, depuis tout petit il est comme ça. Donc alors j'ai essayé de rassembler tous les sujets dans ce schéma, enfin tous les sujets abordés par ce document.
D'accord.
Qui n'était pas une mince affaire. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit le fameux PC sur lequel on fait tourner un système d'exploitation qui s'appelle Windows.
D'accord.
Et dans lequel on va être amené à développer des applications. Des applications, dans un premier temps, donc on va se focaliser sur... deux environnements de développement sur deux frameworks de développement, Silverlight ou Windows Presentation Foundation.
D'accord.
Avec un usage du mode déclaratif de programmation.
Alors ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est ce sur quoi on va se concentrer, la partie en bleu là, qui peut utiliser soit Silverlight, soit WPF dans le cadre de ce schéma synoptique, mais qu'il y a également tout un environnement entre la base de données et cette interface riche qui permet de transformer les données en modèle objet. Et ensuite de modèle objet en modèle de service, au sens web service du terme. Et ensuite, l'interface riche consomme tout ça, quoi. Donc là, on se concentre vraiment sur cette partie interface prévue.
Tout à fait, même si on dira deux mots du framework d'exposition de
configuration
des données. Et donc, on va être amené à parler de certains patterns. On a évoqué le pattern M, V, VM, la notion de data mining entre la vue et le modèle.
Ouais.
Et puis la mise en œuvre de services qui vont être exposés sous forme de modules.
Ouais.
Et ces modules, on pourra les charger dynamiquement avec un framework comme MEF, par exemple.
Voilà. D'accord.
Donc, c'était une tentative de tout rassembler dans,
ah, mais c'est bien, oui, c'est...
dans le même schéma.
Okay.
Le vocabulaire, comme vous avez vu,
à compléter.
Oui, c'est perfectible. Les caractéristiques d'une application Windows, je passe rapidement parce que le temps nous est compté. Donc, le fait d'utiliser les ressources locales, réseau, gérer un mode déconnecté, la notion de mise à jour quasi transparente ou pas, l'adaptation à différentes plateformes matérielles, les PC, les ardoises, oui, le terme français, liaison avec les LSLET. Windows Phone n'est pas traité dans ce document, il sera traité dans un autre document qui sera dédié à la mobilité.
D'accord, mais il y a quand même des points communs, puisqu'il y a la partie Silverlight,
tout à fait. Les bonnes pratiques de développement, on retrouve beaucoup de similitudes, et c'est là une des grandes forces de Microsoft, c'est l'unification de modèles de développement,
ouais.
Soit sur PC ou sur terminal mobile, avec le même outil, les mêmes compétences, les mêmes bonnes pratiques.
D'accord.
Donc les technologies de développement, WPF, sans investir plus que ça sur le sujet, en tout cas dans ce premier paragraphe, Windows Presentation Foundation, Silverlight, la technologie. Des caractéristiques de Silverlight, donc une matrice qui a pas mal évolué à travers les années,
ouais.
Surtout si on regarde le schéma qui suit sur l'évolution des différentes versions de Silverlight. Donc, l'objectif c'était de fournir un tableau qui permette de se déterminer sur le choix d'une technologie ou d'une autre. Et donc petit à petit, on voit que les croix étaient de plus en plus remplacées par des coches.
Oui, là on voit des croix qui sont liées au sandboxing.
Voilà. Et donc, bientôt ce tableau n'aura plus d'utilité en tout cas entre ce qui concerne la différenciation de WPF et Silverlight.
D'accord.
Une simple phrase suffira peut-être.
Donc, un historique de Silverlight.
Un historique, bon, ça c'est mon côté, j'aime pas l'histoire.
Voilà. Ouais.
Donc, le positionnement des technologies de WPF Silverlight. Et HTML5, les critères qui ont fortement évolué à travers le temps. Ça, c'est une question récurrente de nos clients, donc on essaie d'y répondre au mieux.
Est-ce que je dois développer en WPF, en Silverlight, en HTML, parce que je dois développer pour Windows, ou pour un téléphone, ou pour des téléphones, ou que pour Windows, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que visiblement, les cercles ont grossi dans le temps.
Oui, les cercles ont grossi et surtout ils sont rapprochés les uns des autres. Donc les critères de choix deviennent de plus en plus
difficiles parce qu'il y a plus de recouvrement entre les cercles.
Tout à fait. Donc bon, il reste toujours des différences et c'est des différences qui vont faire qu'on va s'orienter sur tel ou tel développement. Donc il y a un blog qui s'est lancé c'est un sujet qui est souvent abordé,
mais
celui qui est référencé, c'est intéressant.
D'accord.
Et,
sur blogsdeveloper.org.
Ça part bien,
ouais.
C'est un sujet qui concerne pas mal les développeurs, effectivement.
D'accord.
Et une tentative de découpage vraiment simplifiée, c'est celle qui apparaît dans les trois cases suivantes, entre une application traditionnelle, où là, vraiment, ça va être très ouvert entre WPF et Silverlight.
D'accord.
On voit aujourd'hui, nos clients, c'est l'un ou l'autre, peut-être avec un petit plus pour Silverlight, je dirais. Et puis, savoir si on veut faire une application qui va tourner explicitement dans le browser ou qui a des fonctions multimédia très avancées, Silverlight, ayant pris un départ très orienté vidéo, va être plutôt la solution préférentielle. Et enfin, les applications web universelles avec HTML5 qui devient la plateforme commune de développement, quel que soit le périphérique, quel que soit l'environnement, l'OS. Le fameux Anywhere, Anytime, Any Device, cher Microsoft, qui va sans doute enfin se concrétiser avec un nouveau standard.
D'accord.
Que nous avons accompagné et que nous accompagnons déjà avec des outils qui donneront toute possibilité en termes d'industrialisation du développement à terme.
D'accord.
Donc le développement d'une application pour Windows avec. Une vue d'ensemble à nouveau sur WPF, l'architecture du framework, dans quel namespace on va retrouver telle ou telle classe du framework en fonction de tel ou tel besoin, de composition, les contrôles, le layout, le système de justement de gestion des événements, du data mining, la prise en compte XML.
D'accord.
Et le positionnement par rapport à ce qui est natif ou managé. Les spécificités liées au fonctionnement de WPF, avec ou sans composition engine suivant la version de l'OS. Les librairies du framework WPF, alors une vue, alors pas stratosphérique, mais intermédiaire, sans rentrer dans le détail. La structure d'une application WPF, qu'est-ce que c'est qu'une application WPF? Bon, ça commence bien, ça commence par système Windows Application. Et ensuite, système Windows prend Windows, on est en terrain de connaissance. La différence entre un arbre logique, où on va retrouver nos différents contrôles objets, et l'arbre visuel, c'est intéressant de prendre en considération le fait que derrière, WPF est obligé de maintenir cet arbre visuel. Donc, quand on voit la différence entre quelques lignes de XML.
Donc là, on a quelques lignes de XML où on a donc un stack panel, dedans un label, une textbox et un bouton. Et puis on voit dans le Visual Tree Explorer que par exemple pour la textbox on a une grille avec un rectangle, qu'on a la textbox view, etc. Enfin, donc c'est
on voit qu'il y a
et les scroll bars, etc.
On voit qu'il y a beaucoup d'éléments derrière de simples contrôles. Donc c'est,
d'accord.
C'est pour ça qu'il faut faire attention sur la façon dont on développe avec ces technos. Suivant les implémentations, on peut arriver à une explosion combinatoire des éléments qu'on va retrouver dans l'arbre de
chair.
Alors qu'on peut l'éviter. Dans certains, enfin, la plupart des cas, ça ne porte pas conséquence, mais pour des applications extrêmement consommatrices de ressources en termes de fichage, ça peut jouer.
D'accord. Vous jetez un œil au Visual Tree Explorer dans Visual Studio, donne une idée de ce qui va se passer.
Tout à fait. Alors WPF, c'est également la possibilité d'utiliser, définir des contrôles, la notion de ressources, des
d'accord.
styles, les notions de contrôle template.
D'accord.
Donc on va pouvoir offrir un comportement. Il y a un affichage qui va différer totalement, non pas par dérivation d'un contrôle, mais par l'usage de la définition d'un contrôle template, les data template.
Ouais.
On voit que parce qu'on manipule un objet métier, on peut le restituer de différentes façons. Bah, là, le contrôle il peut se contenter d'afficher les planètes ou donc, sous forme de Xbox, ou alors en appliquant le bon template.
Il y a ce principe dans WPF de pouvoir avoir des développeurs et des designers qui travaillent sur le même projet avec chacun un focus sur son cœur de métier, quoi, le développement ou l'ergonomie.
Chacun leurs outils. Et on a la possibilité de substituer de façon totalement quasi transparente un data template à un autre pour restituer une information.
D'accord.
Quel que soit le contenu de l'information.
Donc là, tu expliques ça un peu dans le détail, enfin en rentrant un petit peu plus dans le détail, en montrant les principes, quoi.
Voilà. Ouais. Donc c'est pas dans le détail, mais c'est.
Ouais.
Oui, effectivement, ce sont les principes. Donc la notion de trigger, la notion d'animation, la notion de transformation.
D'accord.
Le Visual State Manager, donc il va pouvoir déterminer différents états de l'application et charger en fonction de ces états ben, telle ou telle transformation ou animation.
D'accord.
Les toolkits.
Ouais.
Donc. Là, j'ai fait un focus un peu sur le chart, mais avec le WPF Toolkit et le CLI Toolkit, on a vraiment
d'accord.
des extensions qui sont incontournables dans ce type d'environnement. Le développement de contrôle, j'ai juste mis le titre pour me rappeler qu'il fallait compléter ce point. Et,
okay.
On peut aussi développer des contrôles dans
oui, bien sûr, oui.
Un certain nombre de ressources sur le WPF. Donc j'ai mis quelques
points. Pour aller plus loin et rentrer dans le détail.
Tout à fait. Alors, où je reviens, donc ils permettent de revoir certains aspects, les styles, les triggers. XAML, donc XAML déjà en termes de nouveautés dans la collaboration designer-développeur,
ouais.
qu'on rencontre assez fréquemment. Là où hier, entre le travail du développeur et le travail du designer, ben, il y avait en fait deux étapes. Je design et après je développe, et je design et je maquette dans un format X ou Y, et ensuite je refais tout à la main. Donc XAML, lui, ça va être le trait d'union, le format pivot qui va permettre de repartir. Du travail du designer sans avoir à remettre en cause, mais également de faire des allers-retours. Et donc, comme tu disais, on va pouvoir mutualiser les développements sur le même projet,
ouais.
avec peut-être des outils qui diffèrent comme là, nous, Visual Studio, mais on va travailler sur le même projet.
D'accord.
Donc, XAML, c'est un langage qui n'est pas dédié à WPF ou Silverlight, c'est vraiment un langage de serialisation d'objets qu'on va pouvoir utiliser pour d'autres hiérarchies d'objets, et on l'utilise également pour Workflow Foundation.
Oui, exact.
Donc bon, avec langage, une syntaxe déclarative extrêmement efficace. Et puis, donc, bon, là encore, je reviens sur un certain nombre de liens qui sont pertinents sur le sujet. Et j'aborde la partie développement d'une application métier sur ce type de technologie. Alors bon, j'ai peut-être plus pris l'angle WPF que Silverlight, mais beaucoup de similitudes encore une fois. Donc quand on développe une application de métier sur Windows, la première qu'on développe, quand on découvre WPF, ça ressemble beaucoup à du WinForms, c'est-à-dire qu'on va mettre ses contrôles sur la Windows Form.
Ensuite, on double clique dessus et voilà, on remplit le
code behind et c'est parti.
Ouais.
Donc ça, la première fois on le fait et on s'aperçoit ensuite que c'est pas forcément la bonne approche, enfin assez souvent d'ailleurs, surtout si l'application est conséquente.
Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas maintenable.
Voilà, c'est difficile à maintenir, tu peux pas mettre en place de tests unitaires sur le code behind. Et puis même le code n'arrive pas au même degré d'efficacité que celui que tu peux avoir en mettant en place d'abord une approche fondée sur le data mining, sachant que les mécanismes de data mining ne sont pas spécifiques à WPF, hein, les interfaces,
le notify property change. Le data mining, c'est le fait de dire tel contrôle, par exemple tel text box correspond à tel objet dans la couche business.
Tout à fait. Et on a des mécanismes qui permettent donc de synchroniser une arborescence d'objets et dire par exemple ici ma Windows elle a un data context qui est lié à une hiérarchie d'objets et du coup chacun des éléments va pouvoir se mapper sur telle ou telle composante de ma hiérarchie d'objets.
D'accord.
Sachant que je peux repositionner à des niveaux intermédiaires un nouveau data context. Mais cette mécanique est extrêmement efficace, surtout quand on part sur un modèle MVVM, parce que justement on va pouvoir mapper toute une vue avec un objet de présentation. Donc, manipuler un objet en data mining, ça présuppose que cet objet va être en mesure de notifier l'interface de ses évolutions, si je fais du data mining dans les deux sens. Et donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc, alors, j'ai rappelé les trois méthodes. Personnellement.
Les nommer peut-être rapidement.
Oui, la méthode que j'ai jamais utilisée, qui est passée par l'interface Custom Type Descriptor.
D'accord.
On implémente cette interface. La méthode qui est systématiquement utilisée aujourd'hui, qui est le fait d'implémenter l'interface Notify Property Change.
D'accord.
Donc, c'est cette méthode sur laquelle je reviens ensuite, parce que dans la plupart des frameworks.
C'est elle qui est utilisée.
Voilà. En plus de ce que propose Microsoft avec WPF, il y a des frameworks.
D'accord.
Comme Enroute, comme Galasoft, MVVM Lite et autres, qui incitent à partir dans une direction. Ils sont partis dans cette direction-là, ce qui est plutôt bon signe.
Et la méthode 3
Donc la méthode 3, c'est d'implémenter un dependency object. Donc c'est supposé être la plus efficace en termes de performance, mais au final.
Elle est plus compliquée à mettre en œuvre peut-être.
Un chouïa plus compliqué, un chouïa moins utilisé, aujourd'hui.
D'accord.
Plutôt les Notify Property Change. Donc Inotify Property Change, on peut le compléter parce qu'il y a quand même des contraintes. Chaque fois que tu positionnes une propriété, tu es supposé déclencher l'événement. Property change.
D'accord.
En nommant la propriété entre guillemets, ce qui est source d'erreur. Donc il y a des façons de faire en sorte que on ne soit pas dans un mode de nommage de propriété, mais plutôt dans un mode où il y a une phase de compilation qui va valider le fait que c'est la bonne propriété.
Ah oui, d'accord.
Tu mets directement le type que tu aurais pensé, mais ça suppose un petit bout de code qui va s'occuper du nécessaire avec un impact sur les performances, mais qui n'est pas dénant. Bon, comment on annule les modifications sur une notification qui a été réalisée par data mining,
donc
on entend un immutable object, les frameworks de validation, à quel moment je valide. Bon, alors je peux valider sur backend toujours, mais en front-end ça peut être intéressant, et si c'est par l'usage d'un framework qui...
Est-ce que mon débit est bien inférieur à 1 million, des choses comme ça quoi.
Par exemple, oui, toi aussi tu laisses ta carte bleue à ton pack. Bon, la validation des données, quelques articles. Le debugging, le data mining, donc qui a ses limites aujourd'hui, mais on voit arriver avec Silverlight 5 qu'on peut débugger le data mining directement dans Visual Studio, ce qui est un vrai bonheur.
Ouais.
Mais on savait déjà faire des choses, qui étaient plus dans le mode j'affiche, ce qui peut mal se passer.
Ok, les design patterns.
Oui, alors les design patterns, donc incontournables pour ce type de développement, parce qu'ils apportent à la fois efficacité et qualité du code, possibilité d'outiller les vitesse beaucoup plus facilement. Bref, donc le modèle MVVM.
C'est une façon de faire éprouvée en général.
Voilà. Donc ça fait plusieurs années maintenant que les architectes et les développeurs développent des
applications. MVVM, donc c'est inspiré de MVC en gros.
Oui, c'est un framework dérivé du MVC avec ses spécificités qui vont tenir compte du fait que justement dans l'environnement WPF aussi, voilà, il y a des possibilités extrêmement intéressantes de data mining.
Ouais.
Et donc,
c'est le MVC adapté au data binding, enfin tirant parti du data binding pour.
Voilà, et en fait, pour, grosso modo, on va mapper complètement la vue, on va découper son projet chaque fois qu'il y a une partie visuelle qui va accéder à une vue. Cette vue, c'est essentiellement du XML avec un petit peu de code behind. Le minimum, bon, faut pas tomber dans l'excès inverse, on dira, ah, faut absolument pas que je fasse de code behind, des fois ça fait sens de faire du code behind.
Ouais.
Mais on va mapper cette vue avec le view model. Et donc le view model, c'est simplement une représentation du modèle, mais qui est prédisposée à son affichage à travers la vue et à la récupération des données à travers des mécanismes de data mining. Donc là, on est en data mining à la fois sur les données et sur les commandes avec la mise en œuvre d'un pattern de commandes.
Ça, c'est le modèle pour la vue.
Voilà. Et le view model, il évolue. Et lorsqu'il évolue, bah, il doit notifier la couche de présentation, enfin la vue de sa modification. Et du coup, pour ce faire, il faut que le view model, il implémente un certain nombre d'interfaces.
D'accord.
Donc les interfaces comme Notify Property Chain.
Dont on parlait dans la méthode 2 tout à l'heure.
Voilà. Ou Observable Collection s'il s'agit d'une liste d'objets.
Ok.
Donc là encore, bon, quelques liens sur le MVVM. Le pattern commande, donc il va me permettre, plutôt que d'avoir à gérer sur chacun des contrôles en code behind.
Donc ça, c'est pas un pattern qui est concurrent du MVVM.
Non, il peut se combiner avec,
d'accord.
Avec le pattern MVVM. Et on le voit bien ici.
Ah oui.
La notion de data mining sur les commandes. Et donc on va pouvoir décider si une commande est exécutable ou pas, par exemple. L'ensemble des commandes vont être grisées, enfin l'ensemble des contrôles vont être grisés parce que la commande n'est pas exécutable parce qu'une condition n'est pas requise.
D'accord.
Et donc je ne vais pas avoir repassé sur tous les contrôles pour dire affiche commande grisée ou tu n'es pas actif. Donc j'ai centralisé en un seul endroit la commande, le fait qu'elle soit appelable ou non, et je l'ai fait de façon déclarative.
Dans le view model.
Alors la commande est déclarée dans le view model et dans le view j'ai déclaré la commande.
Ouais. Donc ça c'est le view model et ça c'est le.
Enfin, j'ai fait le lien plus exactement. Dans le view j'ai fait le lien entre le contrôle et la commande. J'ai data mining la commande.
D'accord.
Donc il y a des commandes. Alors bon, ça c'est le cas particulier de WPF. Il y a des outils de commandes. Un bout de XAML qui montre justement cette déclaration de la commande dans la
view. D'accord.
Comment tu peux prendre un paramètre. La notion de attach behavior. Justement, si, comme je le disais, si, dans le document, si vous souhaitez que lorsqu'on sélectionne un nœud du tri-view, il y a un centrage automatique qui se passe sur
le nœud.
C'est le genre de scénario qu'on va implémenter plus facilement avec une attach behavior.
Okay.
L'extensibilité, donc je reviens assez rapidement sur un framework qui est issu d'un développement communautaire sur Perplex.
D'accord.
Un framework, donc Manage Extensibility Framework, et qui maintenant est intégré dans le framework .NET 4,
d'accord.
Qui est intégré dans Silverlight 4, qui est utilisé dans Visual Studio 2010. Enfin bref, tout porte à croire que on peut
lui souhaiter longue vie.
Voilà. Donc avec des mécanismes de composition de modules, de façon. Alors chaque module va indiquer quels sont les interfaces exportées ou importées. Et donc ce chargement pourra se faire de façon complètement dynamique.
Et la mise en œuvre est relativement simple. Enfin, voilà, la syntaxe est assez claire.
Voilà, ce qui va caractériser NF, c'est justement le fait que c'est très peu structurant par rapport à un framework comme Prism.
Oui.
Donc c'est du léger, facile à implémenter.
C'est pas la grosse artillerie injection de dépendance.
Voilà, oui, donc
complète.
La vocation de MEF, c'est pas uniquement de faire de l'injection de dépendance, c'est vraiment de donner la possibilité d'étendre l'application.
Ouais.
Comme on l'avait proposé à un moment donné avec SystemAdin, qui est un framework, une extension du framework .NET, mais qui n'est pas appelé à garder le même avenir que
MEF.
Notamment parce qu'il était complexe alors que MEF est simple.
D'accord.
Donc Prism, Composite Application Guidance pour Fard WPF et Silverlight. Donc là, au contraire, qui est un framework très structurant, qui impose un mode de développement cadré où on va définir ce qu'on voit ici dans le schéma, une région avec avec plusieurs régions. On va les disposer à l'écran, par exemple, pour le faire un outlook, on va retrouver ces différents ces différentes régions, et puis on va devoir, et on va charger des modules, et les modules eux-mêmes ils vont implémenter tel ou tel pattern, donc aujourd'hui plutôt MVVM, et j'ai un bootstrapper qui va me charger avec des services qui me proposaient de composition au sein d'un catalogue et de chargement des modules, qui va me charger chacun des modules en fonction de tel ou tel critère. Ils sont présents sur mon répertoire. J'ai un profil qui dit que je dois charger tel et tel module. Donc ça peut se faire dynamiquement avec Unity, qui est un framework d'injection de dépendance, pure framework d'injection de dépendance qui est fourni sur Perplex, ou MEF, qui lui est maintenant dans .NET, voilà, ou dans Silverlight, suivant qu'on développe dans un environnement ou dans l'autre. Donc ça, c'est un framework qui peut apporter une vraie valeur ajoutée à des éditeurs logiciels qui veulent justement cadrer les développements, mais je connais par contre, à contrario, des développeurs qui supporte pas.
Et si on fait un développement jetable de 3 semaines, c'est pas la peine d'essayer de rentrer là-dedans.
Voilà, vaut mieux partir sur du MEF par exemple. si on a ce besoin de composition dynamique qu'on n'a pas forcément. D'autre part, là où il est intéressant, Prisma, c'est également qui va vous donner la possibilité de gérer des événements issus d'un module et les répercuter sur les autres modules par la mise en œuvre du pattern Event Aggregator, ou gérer des commandes qui vont être déclenché de façon globale sur plusieurs modules. Et donc il y a des notions d'allégorie.
Donc il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas neutre, après c'est vraiment puissant. Quoi. Enfin, voilà. ça permet de faire des interfaces très riches et très capables effectivement d'intégrer plusieurs modules avec une cohérence dans l'interface utilisateur, etc.
Voilà. Par contre, c'est, comme je le disais, c'est structurant, il faut respecter un certain nombre d'interfaces. Bon, il y a des gens qui aiment bien, notamment si on veut. Enfin, il est plus coercitif, on va dire, comme modèle que celui que propose MEF, où là, c'est plus...
D'accord.
Bon, il ne faut pas systématiquement les opposer, d'autant plus que Prism peut utiliser MEF.
D'accord.
Donc, framework de communication, exposition des données, bah voilà, nous, on est dans notre couche view avec notre view modèle. Puis, à un moment donné, il y a une couche de service qui n'est pas forcément... qui peut être local ou pas. Comment est-ce qu'on va l'implémenter? On a plusieurs façons de le faire, avec un framework qui est Windows Communication Foundation, autre composante du framework .NET, qui est décliné dans plusieurs parfums. Donc on a donc le WCF natif SO, on va dire, l'origine natif parce que l'origine il était comme ça, qui est venu se compléter avec une version REST et d'ailleurs un SDK complémentaire. On a WCF Data Service qui est proposé.
Donc Euro Data.
Voilà. Et puis RIA Service qui lui est arrivé avec Silverlight pour faciliter le développement. D'application Silverlight.
Oui, c'est un WCF vraiment adapté au développement Silverlight parce qu'il simplifie énormément, enfin il rend presque transparent le fait de passer par Internet pour récupérer, entre le modèle et le vieux modèle, quoi, c'est ça?
En fait, l'idée c'est de ne pas avoir à inventer la roue. Oui. Systématiquement, lorsqu'on fait un service ici de l'autre côté de la frontière qui va m'exposer les données, ce service il va falloir faire un proxy.
Oui.
Et puis les données qui sont manipulées ici, on va les avoir sous forme de modèle objet hérité du proxy, mais il va falloir utiliser des contrôles pour les afficher.
Ouais.
Et donc ce qu'apporte Silverlight, c'est déjà d'une part, lorsqu'on crée son service côté back-end, il va générer automatiquement la notion de service domaine qui sera le proxy en local, mais préadapté au fait qu'on a des contrôles SUX Silverlight qui vont permettre d'aller développer très très vite l'application.
D'accord.
Et en plus, le wizard qui est proposé, qui est le service, il permet de générer les CRUD correspondant à
Create Read Update Let.
Voilà, à l'ensemble des objets d'accès aux données qui auraient pu être manipulés, donc là, qui auraient pu être générés. Donc l'approche traditionnelle, c'est j'ai ma base de données, je fais un peu d'entity framework, hop, j'ai. Mon premier niveau d'objet orienté données, et là je clique, je me crée un domaine de service et je génère d'un coup de cuillère à peau tous les CRUD associés à ma base de données correspondant au table que j'ai sélectionné. Donc en quelques opérations, je suis dans un mode où j'ai pu me polariser sur la partie plus de présentation. Ce qui est intéressant également, c'est que ce service WCF RIA Service, donc qui est exposé nativement pour être utilisé directement par Silverlight, on peut très bien lui rajouter des endpoints au data ou SOAP.
D'accord.
Donc si on rajoute que c'est un endpoint dans le fichier de configuration, ça veut dire qu'on peut l'utiliser avec n'importe quel environnement qui sépare les SOAP ou les data, comme je sais pas, un développement WPF par exemple, ou un développement sur Swoon 7. Et par contre, on n'aura pas les contrôles, les fameux contrôles qui accélèrent la partie réutilisation directe des services RIA, mais on aura la possibilité de data mining comme on fait. Il y aura un peu plus de travail, mais ça permet de gagner du temps parce que justement il y a toute cette partie plomberie qui est gênée.
D'accord.
Alors, le multilinguisme, donc globaliser une application, il y a un certain nombre de frameworks, il y a beaucoup de choses natives. Donc, globalement, aujourd'hui, l'approche serait plutôt de se baser sur les ressources, même si ce n'était pas forcément l'approche que mettait en avant Microsoft il y a quelques années. Je ne développe pas le sujet d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de creuser. Bon, pour l'instant, j'étais au plus court. Les performances, alors les performances, je suis revenu sur un certain nombre de points, sur multithreading.
Ouais.
Avec des situations assez courantes où lorsqu'on commence à développer des applications sur multithread, on peut avoir des problématiques de verrouillage du thread
UI.
J'aime bien ce schéma que j'ai récupéré sur un blog où il proposait une implémentation de Smart Dispatcher, où on voit effectivement que lorsqu'on fait le data mining, il faut revenir sur le thread d'interface utilisateur. Et là, il y a une classe qui va le faire, qui est Dispatcher.
D'accord.
Qui va permettre de gérer la mise à jour de l'information affichée sans provoquer d'accès inter-thread non autorisé.
D'accord.
Donc la classe Dispatcher, c'est la façon la plus courante de répondre à la problématique. Il y a une classe Backgrounder Background Worker qui existe également, qui permet, utilise Dispatcher de toute façon, donc, bon, c'est une classe de plus haut niveau, qui va arriver à peu près au même résultat. J'ai également parlé de différentes optimisations qu'on va retrouver indépendamment de ces problématiques de multithreading, justement, qui vont tirer parti de la prise en compte de l'arbre visuel et ce genre de choses.
Tu évoques le Reactive Framework par rapport à tout ça?
Alors, dans le Reactive Framework, je l'évoque juste sur la gestion des données en entrée, effectivement, pour gérer l'asynchronisme de façon plus efficace, mais effectivement, ça fait partie
On a des syntaxes assez sympathiques, si on peut dire, mais enfin, en tout cas, qui rendent le code assez lisible, bien que ce soit très asynchrone.
Ouais. Alors, une des différences entre WPF et Silverlight, c'est que Silverlight impose un synchronisme là où WPF ne l'impose pas.
Ouais.
Mais effectivement, dès lors qu'on commence à programmer de façon asynchrone, d'ailleurs, ça peut être une bonne idée de le faire en WPF, même si c'est pas un peu
ouais.
Le framework RX apporte toute sa valeur ajoutée.
D'accord.
De lisibilité, d'efficacité.
Ok.
Tant que j'étais, c'est mon côté jusqu'au boutiste, sur la performance, j'évoquais les outils profiling qui sont disponibles pour de l'EPF. Alors, pour être franc, je crois qu'on les a utilisés une fois au MTC, mais c'était pour un client qui avait vraiment une problématique d'affichage qui sortait de l'ordinaire. Mais bon,
d'accord.
Ils sont là. Le mode de déploiement, comme je disais, donc ClickOnce, vous voyez, j'ai mis trois petits X, c'est-à-dire que je compte le faire un jour, ou alors si quelqu'un veut le faire, encore une fois, c'est un document collaboratif.
D'accord.
La sécurité, je reviens pas sur le détail de la sécurité, un schéma que j'ai joyeusement extirpé d'un document qui est disponible sur un PDF qui est disponible sur CodePlex.
D'accord.
Donc claims-based-wf-codeplex.com.
D'accord.
Qui fournit un certain nombre d'exemples qui mettent l'accent sur comment développer une application de WPF qui va tirer parti de la sécurité basée sur les claims.
D'accord. Les claims, on retrouve ça à idmgt.archims.fr.
Tout à fait. Et puis,
sujet que tu connais bien.
C'est un sujet que Benjamin aussi connaît très très bien. Donc, d'ailleurs, il pourra qu'on discute. Mode déconnecté,
ouais.
Avec le SIG Framework en version 4, que je n'ai pas encore regardé d'ailleurs, il faut que je le regarde, puisque maintenant il permet de gérer des problématiques de synchronisation, y compris avec Silverlight. Donc ça m'intéresse de regarder ça de très près. Et puis donc la convergence Silverlight et WPF qui se fait de plus en plus forte.
Nos fameux cercles qui grossissent.
Voilà. Peut-être que je remette les interfaces utilisateurs naturelles.
Ouais.
Traduire à identique, Natural User Interface. Donc Surface V2, je me suis complètement contenté de. C'est le seul contenu qui est en anglais, c'est complètement l'interface utilisateur, les spécificités de la nouvelle Surface.
D'accord.
Qui qui est un peu plus intéressante et qu'on, j'espère qu'on va voir très bientôt au ETC. Et puis les quelques bonnes pratiques dans le design d'interaction pour les applications Windows Multitouch, mais là bon, encore une fois, on est arrivé à la fin du week-end. Et donc ces parties seront développées, complétées bien sûr prochainement. Et
d'accord. Puis,
Kinect, comme je disais.
Donc une caméra 3D pour arriver à détecter comment est-ce qu'on s'agite devant l'écran.
Les mouvements, capturer non pas une mais deux personnes, parce qu'on a fait le test tout à l'heure avec mon petit camarade, ce qu'on pouvait pas faire avec les drivers PrimeSense.
D'accord.
Donc là, Open. Là, on a un système qui va permettre de développer des applications assez sympathiques et qui, en septembre, sauf erreur de ma part, devrait être disponible dans une version permettant de développer des applications commerciales.
Aha.
Et donc, voilà. Voilà un tableau de synthèse. Alors, je ne sais plus à qui je vais en parler sur le net. Donc, de toute façon, je n'ai pas demandé la permission de toute façon de changer. Mais je trouve qu'il regroupait un certain nombre de points. C'est une autre façon, ce n'est pas synoptique, mais c'est côté architecte. Donc il y a des choses qui évolueront dans ce schéma, mais c'était pour mettre un aperçu de la façon dont je le voyais. On va retrouver certains des éléments qui seront abordés dans le document.
D'accord.
Voilà. Et puis on arrive à la fin du document, bon, on a débordé un peu, je suis désolé Benjamin.
Pas de problème.
Le prochain je le ferai plus court, comme ça fera une moyenne.
Très bien, eh bien merci, c'est tout pour cette fois. Retrouvez les ressources à http://architech.archimsarchims.fr. C'est tout pour cette fois. À bientôt.
Merci Benjamin.
À bientôt.